Flota en Méditerranée.
Occuper la mer contre les frontières.
Ouvrir des brèches
contre l'Europe forteresse.
Pour la liberté de circulation de toutes et tous, sans condition.
Vous êtes toujours sur Radio Galère 88.4 et nous sommes toujours en direct du J4 à Marseille devant le MUSEM sur le plateau radio de la Flota. Au bord de la Méditerranée, mer et frontières, traversée par des milliers de personnes chaque année. Traversées qui sont entravées par les politiques frontalières des États, notamment européens, notamment de l'Union européenne, qui mettent en place depuis les années 2000 des moyens et outils pour surveiller, contrôler et réprimer le passage en mer. Alors ces outils mis en place sont nombreux, ils sont coûteux aussi et ils bénéficient à un marché très prolifique, celui de l'armement. Et parmi ces dispositifs, Frontex, acteur très présent en Méditerranée, est pourtant méconnu. Pour en parler avec nous, Mathilde d'Alarmphone, merci d'être toujours avec nous Mathilde. Autre invité hors plateau, cette fois Ibrahima au Sénégal, dont on va écouter un enregistrement tout à l'heure. Et enfin Thomas, ici présent, salut Thomas. Toi et Ibrahima, vous faites partie d'un réseau qui s'appelle Abolish Frontex. On va en reparler un petit peu tout à l'heure. Mais déjà, dans un premier temps, est-ce que tu peux expliquer qui est Frontex, quel rôle cette agence joue, notamment dans l'externalisation et la militarisation des frontières?
Oui, alors merci pour ton introduction. Sur le papier, Frontex, c'est une agence de l'Union européenne qui a été créée en 2004 pour la gestion des frontières extérieures de l'espace Schengen et la soi-disant lutte contre la criminalité transfrontalière. En gros, Frontex collecte des données sur les personnes en mouvement et produit des analyses de risques qui influencent directement les politiques de l'Union européenne. Dans ces rapports, vous l'aurez compris, on parle d'analyse de risque, donc l'accent il est mis sur une vision sécuritaire des personnes en mouvement qui sont généralement décrites comme une menace. Alors, dès le début de Frontex, il y a une grande opacité sur leur travail et une absence de responsabilité vis-à-vis de leurs actes. En gros, personne ne contrôle vraiment Frontex et l'agence bénéficie d'une grande impunité, notamment vis-à-vis des refoulements illégaux qu'elle pratique au quotidien. C'est important de noter qu'en 20 ans, le budget de Frontex, son autonomie et ses domaines d'action ont augmenté de manière vertigineuse. Aujourd'hui, leur budget s'élève à 600 000 euros par an et là où il y avait 60 employés en 2004, on est passé à 3000 employés aujourd'hui. Donc c'est des personnes qui travaillent à temps plein à la construction d'une Europe forteresse. D'ici 2027, avec au passage l'entrée en vigueur du nouveau pacte sur l'asile et l'immigration en juin 2026, le budget de Frontex va passer à proche d'un milliard d'euros par an, soit, accrochez-vous, une augmentation de 14 000%. C'est l'agence européenne qui a de loin le plus gros budget. Si on prend par exemple le budget pour l'asile, on est à 174 millions. Le budget de l'environnement et de la sécurité alimentaire, c'est 100 millions. Donc on est très très loin au-dessus quand il s'agit de Frontex. Alors que va faire Frontex avec tout ce fric? D'ici 2027, Frontex va recruter une armée de gardes frontières qui peuvent posséder et utiliser des armes et vise à avoir 10 000 gardes d'ici 2027. Il y aura 10 000 agents de Frontex qui seront déployés et autorisés à porter une arme. Donc, pour pouvoir porter des armes, il y a dû avoir un passe-passe légal, parce que normalement, c'est seulement autorisé pour la police et les armées. Donc, il s'agit bien de pistolets 19 mm. L'Union européenne a vraiment le projet de lever donc, une armée. La présidente de l'Union veut même tripler ce nombre pour atteindre 30 000 agents. Donc nous, on refuse de parler de Frontex comme une simple agence des politiques européennes. Pour nous, il faut l'appeler par ce qu'elle est, c'est-à-dire une armée anti-migrants. De fait, Frontex entretient des liens de plus en plus étroits avec l'industrie de l'armement et de la sécurité. Ils assistent souvent à des réunions de lobbying et utilisent leur propre budget pour acheter des équipements. L'agence facilite aussi l'acquisition par les pays de l'UE de technologies et de produits de surveillance en jouant un rôle d'intermédiaire entre les États membres et les entreprises de défense et de sécurité. Au final, ce narratif anti-migrant, en plus de plaire à l'extrême droite, il bénéficie majoritairement à l'industrie de l'armement. Donc pour citer quelques exemples français, il y a Thales, bien sûr, et puis il y a Airbus qui va construire toujours plus de drones pour survoler la Méditerranée. Pour revenir à la question sur l'externalisation des frontières, oui, Frontex est complice de l'externalisation du contrôle des frontières, notamment vers des pays du continent africain, par le biais du réseau Africa Frontex Intelligence Community, qui compte plus de 30 États africains parmi ses membres. Il faut savoir que Frontex a sa propre base de données, qui s'appelle Eurodac, donc c'est une base de données énorme, Et c'est une dynamique clairement néocoloniale où Frontex collecte des données via des contacts avec des pays d'Afrique, comme des données biométriques, des empreintes digitales, etc. Que Frontex va ensuite partager avec Europol. Donc avant même le départ pour ces personnes, elles sont déjà fichées et leurs données sont transmises à la police européenne. Depuis des années, l'Union européenne conclut des accords et verse d'énormes financements aux pays voisins pour qu'ils contrôlent leurs propres frontières et réadmettent les ressortissants ainsi que les demandeurs d'asile qui ont transité sur leur territoire. En échange, l'Union leur fournit des financements, des formations et des technologies de surveillance, tout en fermant les yeux sur les violations des droits humains dans ces pays. Frontex aide directement ces pays à organiser ce qu'elle appelle des pushbacks, donc des refoulements qui sont bien sûr illégaux. En Méditerranée, par exemple, Frontex communique la position des bateaux aux milices libyennes, donc grâce à leurs drones, et puis ces milices les enlèvent ensuite les personnes en mer pour les forcer à se rendre dans des camps de torture. Et c'est en connaissance de cause que l'Europe finance la marine libyenne qui utilise des bateaux italiens. Par contre, ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. Et à la place, ils vont faire proliférer des fake news, ils vont tordre la vérité. Ils vont par exemple faire un tweet en annonçant que 629 000 vies ont été sauvées grâce à eux. Donc ça, c'est un fait. Ce tweet a vraiment eu lieu. Alors nous, on s'est demandé de quoi il parle, d'où vient ce nombre. Et en cherchant un peu, on s'est rendu compte que en fait, ce nombre il correspond en réalité au nombre de pushbacks illégaux en Libye. Mais ça, ils ne peuvent pas le dire sur leur site parce qu'ils soignent leur réputation, ils soignent leur image en disant qu'ils sauvent des vies. Et ils font ça pour rendre légitime le contrôle migratoire et une dynamique sécuritaire. La campagne Abolish Frontex a donc pour objectif d'exposer les rôles de Frontex en montrant l'écart entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font vraiment. En conclusion, l'Union européenne externalise le contrôle de ses frontières et se dirige rapidement vers un régime renforcé de déportation massive. Dans ce contexte, Frontex agit aussi comme une agence de déportation puisqu'elle a coordonné l'expulsion de plus de 100 000 personnes depuis 2006. Et au cours de ces vols d'expulsion, des personnes ont été torturées, elles sont ligotées et parfois bâillonnées. Maintenant, avec le nouveau pacte migratoire qui entrera en vigueur en juin prochain, il y aura davantage d'argent public qui servira pour financer des murs, des barbelés, des corps de police, des centres de détention et des technologies de surveillance et de contrôle, qui par ailleurs ont au préalable fait leur preuve dans des régimes génocidaires et totalitaires.
Merci beaucoup. Donc ça nous donne un très bon aperçu hein, sur ce véritable bras armé de la sécurisation des frontières européennes. Et justement, maintenant, pour avoir un exemple précis du rôle de Frontex dans l'externalisation, on va écouter une intervention enregistrée par Ibrahima à propos de l'Afrique de l'Ouest.
Ce message est dédié au mouvement de solidarité de Eflota à Marseille. L'Afrique de l'Ouest est au cœur de la stratégie européenne dite de containment. Empêcher les migrations avant qu'elles n'atteignent les côtes européennes. Stopper les migrants le plus loin possible des frontières européennes. Frontex a signé des partenaires clés avec le Sénégal, la Mauritanie, le Niger, la Gambie et le Cap Vert. Les instruments que Frontex utilise sont des accords bilatéraux de l'Union européenne et des États africains pour renforcer le contrôle et autoriser des opérations conjointes. Le financement sécuritaire déguisé en aide au développement, les officiers de liaison permanente de Frontex dans les ambassades et les bureaux de l'Union européenne, par exemple au Sénégal, il y a 4 agents de liaison de Frontex qui se trouvent au Sénégal. Les opérations historiques, donc il y a l'opération ERA en 2006 qui a débuté en juin 2006 en réponse à la crise des pirogues, départ massif vers les Canaries. L'objectif était d'intercepter les migrants au large du Sénégal et de la Mauritanie. Les moyens utilisés, patrouilles maritimes et aériennes, coordonnées par la Garde civile espagnole, avec le soutien logistique de Frontex. Les conséquences, détournement des routes migratoires vers des itinéraires plus dangereux, le Sahara, l'Atlantique profond. Les arrestations et les refoulements souvent illégaux, documentés par des ONG. En 2017, a eu le lancement du projet AFIC, Africa Frontex Intelligence Community, réseau de collecte des données migratoires regroupant aujourd'hui 29 pays africains. En 2020, nomination d'un officier de liaison Frontex auprès de la délégation de l'Union européenne à Dakar. Officier de liaison facilite les expulsions et les échanges de renseignements, collecte des données biométriques via le MIDAS, OIM et AFIC permettant un traçage des migrants bien avant leur arrivée en Europe avec l'aide de OIM. et le programme de formation et d'équipement pour militariser les forces locales sous prétexte de lutter contre la migration irrégulière. Donc, il y a la patrouille conjointe avec la Guardia Civile espagnole et les gardes-côtes sénégalaises. Il y a aussi les impacts au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, atteinte à la sauvegarde nationale, accord prévoyant l'immunité pénale des agents Frontex, autorisation implicite de déploiement d'agents armés étrangers sur le territoire sénégalais, violation des droits humains, risque de refoulement illégaux, de détention arbitraire et d'usage excessif de la force, manque total de mécanismes de plainte pour les non-ressortissants de l'Union européenne. Et 2021, renforcement des patrouilles maritimes conjointes avec la Guardia Civile espagnole. Et effets socio-économiques, surveillance accrue des zones maritimes perturbant les activités des pêcheurs sénégalais. Donc, ils n'ont plus le droit de partir en Mauritanie ou de partir en Gambie ou de partir au Cap-Vert parce qu'il y a l'accord, il y a le protocole de la libre circulation de la CEDEAO de 1972 qui garantit les pêcheurs sénégalais ou Mauritanie ou des pêcheurs de la communauté CEDEAO peuvent pêcher dans les zones de la CEDEAO, mais avec la présence de Frontex, donc c'est impossible maintenant. En février 2022, la commissaire européenne Yeva Josan propose un accord de statut pour permettre le déploiement officiel d'agents armés de Frontex au Sénégal. Donc le contenu, agents Frontex autorisés à opérer sur le territoire sénégalais armé et avec immunité judiciaire, donc droit de procéder à des contrôles, des arrestations et des expulsions conjointes. Donc il y a eu des blocages, forte opposition de la société civile sénégalaise qui s'est manifesté rapidement, qui dénonce une atteinte à la souveraineté. Donc, en ce moment-là, sur la situation actuelle de Frontex, les négociations sont toujours ouvertes, mais aucun accord n'a été signé, notamment en raison de mobilisation citoyenne. Par exemple, les organisations de la société civile, comme Boza, qui a organisé le pushback Frontex 3 fois, et Missing Voice aussi, qui a organisé aussi le démantèlement de Frontex aussi 2 fois au niveau du Sénégal. En conclusion, Frontex illustre une nouvelle forme d'ingérence européenne contre le migratoire présentée comme coopération sécuritaire, utilisation de l'aide au développement comme levier pour forcer l'acceptation des accords. L'UE cherche à faire des pays comme le Sénégal des zones tampons, externalisant ses frontières au prix de la liberté de circulation et des droits humains. Les sociétés civiles africaines, notamment au Sénégal et en Mauritanie, jouent un rôle essentiel pour contrer cette militarisation et réclame une politique migratoire fondée sur la solidarité plutôt que sur la répression. Donc, il y a plusieurs recommandations et pistes d'action qui sont passées. Transparence, exiger la publication des accords de coopération UE-Sénégal. Renforcement juridique, mobiliser les instruments de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies pour protéger les droits de la mobilité. Mobilisation citoyenne, sensibiliser les populations locales, pêcheurs, familles des migrants, étudiants aux enjeux de Frontex. C'est ça la majeure partie des organisations de la société civile sont en train de faire. Et les plaidoyers internationaux aussi. Faire pression sur les institutions européennes pour limiter le mandat de Frontex ou de l'espace Schengen. En résumé, le Sénégal est aujourd'hui un terrain d'expérimentation central pour l'Union européenne qui tente de déployer Frontex comme force de contrôle migratoire et territorial. Malgré des années d'opérations clandestines, ERA, AFIC, MIDAS, la résistance citoyenne empêche encore la signature d'un accord formé. Ce bras de fer incarne une lutte plus large entre néocolonialisme sécuritaire et droit fondamental à la mobilité. À Marseille, votre lutte contre les politiques sécuritaires et racistes rejoint la nôtre. En Afrique comme en Europe, nos combats sont liés. Il s'agit de défendre la liberté de circulation, la dignité des migrants et la solidarité internationale.
C'était les mots de Ibrahima, camarade sénégalais du réseau Abolish Frontex. En effet, ça mérite d'être applaudi. On reviendra plus tard sur la campagne Abolish Frontex, mais d'abord, on va s'intéresser au rôle de Frontex dans une autre région, la Méditerranée centrale. Je me tourne vers Mathilde. Thomas et Ibrahima nous ont parlé des opérations que Frontex mène, notamment en Afrique de l'Ouest, avec des agents de liaison, le traçage des personnes susceptibles de partir. Qu'en est-il en Méditerranée centrale? Est-ce que tu peux nous parler du rôle de Frontex dans cette région?
Oui, alors comme on l'a dit, en gros, le rôle de Frontex, c'est d'empêcher les gens d'arriver en Europe. Je vais d'abord commencer par évoquer une autre région encore. La mer Égée, elle est traversée entre la Turquie et la Grèce. Dans cette région, par exemple, Frontex participe vraiment directement et physiquement au pushback, au refoulement des gens. Il y a des agents de Frontex qui attaquent des bateaux de personnes qui traversent, qui neutralisent les moteurs et qui après les mettent à la dérive sur des bateaux gonflables. En Méditerranée centrale, la stratégie est autre. En gros, Frontex fait tout pour favoriser les interceptions. Et alors en plus, ça brouille un peu les pistes parce que la partie visible de leur activité en Méditerranée centrale, en fait, c'est vraiment du sauvetage. C'est-à-dire qu'en Méditerranée centrale, Frontex a aussi une activité de search and rescue réelle. Ils ont des bateaux, il y a des bateaux de garde-côtes qui sont opérés par Frontex à Lampedusa et qui font du secours. Et ils ont des avions. Alors là, c'est un peu plus ambigu. En fait, leurs avions, quand ils repèrent un bateau en détresse plutôt au nord, ils relaient en clair l'appel à ce que tous les bateaux viennent les aider. Et par contre, si c'est plus au sud, là, par contre, ils ne vont pas relayer l'appel de détresse en clair parce que c'est une zone d'interception. Et du coup, ils vont transmettre l'information aux soi-disant gardes-côtes libyens pour qu'ils viennent chercher les gens. Cette collaboration directe avec les soi-disant gardes-côtes libyens, il y a quelques années, il y a des journalistes qui ont révélé qu'il y avait des groupes WhatsApp qui existaient entre des agents de Frontex et des militaires libyens à cet effet. Et sans doute, il y a d'autres moyens de communication qu'on ne connaît pas. En fait, Frontex, c'est un peu l'œil de Sauron en Méditerranée. Ils voient tout, mais on ne sait pas exactement comment. On sait qu'ils ont beaucoup, notamment, d'avions et de drones qui ont une grosse activité de surveillance dans la zone. Des avions et des drones qui, en plus, coupent régulièrement leur signal et, du coup, ne sont pas visibles et on ne sait pas où est-ce qu'ils vont. C'est sûr qu'il y a d'autres moyens de surveillance. Par contre, c'est à peu près sûr qu'il y a des IMSI catchers et qu'après, ils arrivent à localiser les téléphones satellites qui sont utilisés par les personnes qui traversent et qu'ensuite, ils ont un moyen de transmettre ces informations et ces coordonnées aux Libyens pour qu'ils viennent chercher les gens. Mais c'est quand même une certaine zone d'ombre ce que Frontex sait vraiment et comment ils l'apprennent.
Et plus globalement, est-ce que tu peux nous détailler comment la stratégie d'externalisation des frontières se déploie en Méditerranée centrale ? Je pense à la politique des interceptions dont tu as déjà un peu parlé et les pushbacks qu'on a évoqués avant.
Ouais, alors les interceptions, c'est un bon exemple parce que je pense que c'est important de garder en tête qu'il n'y a pas que Frontex dans l'histoire. On a parlé de beaucoup d'accords bilatéraux entre des pays européens et des pays du Sud tout à l'heure. Et il y a vraiment beaucoup de choses qui passent en fait par les États eux-mêmes. Comme Thomas l'a dit, il y a l'accord entre l'Italie et la Libye à travers lequel l'Italie fournit des bateaux aux gardes-côtes qui sont des bateaux ultra rapides et qui forment en fait aussi des gardes-côtes en Libye. Il y a des militaires libyens qui viennent en Italie pour être formés là-bas. Pour la Tunisie, c'est assez flagrant, on en a parlé tout à l'heure. Depuis l'accord avec l'Italie, les interceptions ont énormément augmenté. Là aussi, il y a des bateaux qui sont financés. Là aussi, il y a des formations qui sont faites pour les gardes-côtes. Et effectivement, il y a très peu de bateaux qui arrivent à traverser et à passer depuis la Tunisie maintenant. Mais je voulais aussi parler du cas de Malte. Malte, c'est un petit peu particulier. Malte, c'est une île européenne qui est finalement assez proche des côtes, en tout cas peut-être la moins éloignée des côtes libyennes. Mais c'est une île qui n'est plus du tout une destination pour les personnes qui traversent. En fait, déjà, il y avait des délais très importants dans l'assistance ou le secours que Malte faisait avant le Covid. Mais en fait, à partir du moment du Covid, ils ont complètement arrêté de secourir tous les bateaux. Je pense l'année dernière, ils ont secouru 4 ou 5 bateaux en moyenne ou grand maximum. Du coup, il y a cette politique de non-assistance qui est très forte, c'est-à-dire qu'ils ne respectent vraiment absolument pas leur responsabilité de la zone SAR. Ils répondent à aucun appel de détresse. Mais ça fait aussi longtemps qu'ils organisent des pushbacks dans leur zone SAR pour ne pas avoir à secourir les gens. Mais en fait, ils le font ce qu'on appelle par proxy, donc c'est-à-dire avec des intermédiaires. Donc ils préviennent eux aussi les soi-disant gardes-côtes libyens et ils les autorisent à rentrer dans leur zone SAR et à opérer parfois très 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 au nord de leur zone SAR, de plus en plus au nord en fait, pratiquement à la limite des SAR italiennes. Et alors, comment ça se passe? Et bah, notamment, il y a les avions des forces armées maltaises qui circulent, on le sait, ils sont cachés, ils ne sont pas du tout visibles, ils ne sont pas traçables. Mais bah, nos camarades qui ont des avions entendent régulièrement des messages radio anonymes qui balancent des coordonnées de bateaux, en gros, aux Libyens. Et ils ont aussi une espèce de flotte fantôme de bateaux qui ne sont pas dédiés à ça et qui apparaissent d'un coup, parce que pareil, pas traçable sur les radars pour, comme disait Thomas tout à l'heure, enlever les gens en pleine mer et les ramener en Libye. Ils ont notamment un bateau qui s'appelle le Tarik Bet Zayed, qui opère à l'est de la SAR. C'est du nom d'une milice libyenne, la milice du fils du général Haftar, qui contrôle l'est de la Libye. Et c'est à peu près sûr qu'il y a un accord secret entre Haftar et Meloni, avec Malte au milieu, pour favoriser les interceptions. Du coup, quand on dit que les frontières tuent, bah, c'est aussi ça. C'est que l'Union européenne est passée d'une politique de non-assistance, de ce qu'on a appelé le left to die, à des actions délibérées pour tout faire pour empêcher les personnes en mouvement d'arriver jusqu'à ses côtes, quoi qu'il leur arrive après.
Et tous ces moyens sécuritaires, cette répression qui se fait parfois de manière très clandestine, hein, bah, elle entraîne des résistances, des luttes. Tout à l'heure, Ibrahima nous a parlé de la mobilisation de la société civile au Sénégal et en Mauritanie face à Frontex. Thomas, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la campagne Abolish Frontex que tu représentes et ce que vous proposez en termes de stratégie de lutte?
Oui, alors Abolish Frontex, c'est un réseau autonome et décentralisé de groupes, d'organisations et d'individus qui a été créé à Bruxelles en 2021 et qui est actif dans plusieurs pays d'Europe et d'Afrique. Le but de la campagne Abolish Frontex, ce n'est pas de réformer ni d'améliorer Frontex ou de le remplacer par d'autres structures qui seraient analogues. Il s'agit de viser les politiques et le système qui maintient Frontex en place. Donc avec Abolish Frontex, on travaille pour la fin du régime frontalier européen, un démantèlement du complexe industriel frontalier et on œuvre pour la construction d'une société où les personnes peuvent vivre et se déplacer librement. Donc Abolish Frontex, c'est aussi un mouvement de solidarité directe avec les personnes défavorisées par un système postcolonial d'inégalité globale de nationalité et qui sont entravées dans leur mobilité par les politiques migratoires européennes. Donc pour avoir une idée de ce qu'on fait exactement, donc principalement on informe au sujet de Frontex. Et puis par exemple, pour le moment, notre regard il est tourné sur la nouvelle académie de Frontex qui ouvrira dans un an à Varsovie, en Pologne. Il s'agit d'un nouveau centre de formation destiné aux gardes frontières de l'Union européenne. Ce centre de formation, qui bénéficie d'un financement considérable de plusieurs millions d'euros, sera le premier du genre à être exclusivement dédié à la police des frontières. Son objectif cette année, c'est de former plus de 200 agents, avec des plans d'expansion rapides dans les années à venir. En vrai, ce centre de formation n'est rien d'autre qu'un terrain d'entraînement militarisé destiné à accélérer la violence aux frontières. Il crée un précédent terrifiant et renforce la surveillance des frontières à travers l'Europe et le monde. Ce camp d'entraînement diffusera des outils brutaux et des techniques de détention, d'expulsion et de déni de sécurité à des millions de personnes en déplacement. Nous, on dénonce cela, et nous résisterons à cette nouvelle normalisation de la brutalité aux frontières. Ensemble, nous voulons nous organiser contre ce centre et réfléchir à des actions centralisées et décentralisées contre les infrastructures de formation des bureaux de Frontex. Par ailleurs, le nouveau siège de Frontex sera aussi construit à Varsovie par le géant français Eiffage, qui détient nos autoroutes, pour un contrat à plusieurs millions. Bref, on a du pain sur la planche, tout le monde est bienvenu pour rejoindre et soutenir la campagne. Rendez-vous sur abolishfrontex.org.
Merci beaucoup. Donc c'est possible de les soutenir via ce site internet. Et donc Abolish Frontex, il s'agit bien d'abolir Frontex, mais surtout mettre fin au monde de Frontex. Merci beaucoup Thomas. On va enchaîner avec une pause musicale, une chanson qui a été choisie par toi d'ailleurs, et un petit changement de plateau pour accueillir nos prochains invités. Restez avec nous sur 88.4 Radio Galère en direct du plateau de la Flota.
Ne parliamo di questa guerra che sarà lunga un'eternità per conquistare un palmo di terra. Quanti fratelli son morti di già? Fuoco e mitragliatrici, si sente il cannone che spara. per conquistar la trincea Savoia si va. Trincea di raggi, maledizioni, quanti compagni son morti lassù. Finirà dunque sta flagellazione, di questa guerra non se ne parli più. O Monte San Michele, bagnato di sangue italiano, tentato più volte ma invano Gorizia pigliar. Da Montenero a Monte Cappuccio, fino all'altura di Doberdò, un reggimento più volte distrutto, al fine indietro nessuno tornò. Fuoco e mitragliatrici, si sente il cannone che spara, per conquistar la trincea Savoia si va.
Flota en Méditerranée.
Occuper la mer contre les frontières.
Ouvrir des brèches
contre l'Europe forteresse.
Pour la liberté de circulation de toutes et tous, sans conditions.